Voilà, bienvenue à chacun et à chacune. Ce soir, c'est le dernier enseignement de notre parcours de cycle 1, cycle de formation fondamentale, et nous abordons les fins dernières. Voilà. Nous mettons derrière les fins dernières les derniers articles du Credo, je crois en la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Voilà. Nous allons voir aussi le jugement, la mort, le jugement particulier, le purgatoire, l'enfer, le ciel, la résurrection des corps, la nouvelle terre, le retour du Christ. Voilà. Il y a une articulation entre le premier article du Credo, « Je crois en Dieu » et le dernier, « On croit en Dieu » et ça nous oriente vers le fin. De la même manière dans notre Père, mais délivre-nous du mal. Donc il y a ces deux textes qui sont orientés vers la fin, la finalité, le ciel. Voilà. Ce que nous allons aborder, c'est quelque chose qui est peu développé. Voilà. Le peuple chrétien est peu au courant de comment se passe ce passage. Qu'est-ce qui se passe après? On en parle très peu, et c'est bien dommage, parce que la vie ici-bas, c'est une vie de préparation pour le ciel. Donc il est bon de réécouter, de réentendre ce que nous dit l'Église dans son enseignement, dans l'Écriture, sur les fins dernières. Alors tout d'abord, peut-être commençons par la mort. Voilà, la mort. La vie humaine, c'est apprendre pour une part à mourir. Là, bien vivre, diraient certains, c'est apprendre à mourir, à se préparer à mourir. Dans la tradition chrétienne, il y eut un temps où on faisait l'exercice de la bonne mort, c'est-à-dire qu'on priait et avant de se coucher, on pensait au fait de mourir. On rendait grâce à Dieu et on examinait sa vie. Voilà. Et on ne se couchait pas sans faire son examen de conscience et en vivant le sommeil, le moment de s'endormir, comme une petite mort qui nous prépare à la grande mort. Voilà. Et puis on priait Saint Joseph, parce que Saint Joseph est celui qui est mort près de Marie et de Jésus. Donc voilà, qui nous accompagne. Et puis on prie aussi Notre-Dame de l'Assomption, qui est montée au ciel, dont un des fruits de ce mystère glorieux, quatrième mystère glorieux, c'est le fruit d'une bonne mort. Voilà. Notre-Dame de l'Assomption, qui est sainte patronne de notre pays et de notre diocèse. Et puis aussi, on a dans la tradition chrétienne, je crois, si je ne me trompe pas, chez les franciscains, l'exercice spirituel de la bonne mort. Voilà. Donc il y a toute une tradition. Il y a aussi une tradition iconographique, que vous connaissez, par exemple, ce sont les vanités, ces représentations, on voit sur des tableaux une personne qui regarde un crâne et qui médite la futilité des choses, la vanité des choses pour se préparer à son devenir, c'est-à-dire la mort. Voilà, des tableaux célèbres, en particulier de Georges Latour, représentent de belles femmes avec des bougies devant le miroir qui pourraient regarder leur beauté, mais à côté il y a un crâne. Et ce crâne, ben, ça prépare à la mort. Voilà. Alors c'est vrai que notre culture ne mérite plus la mort. On pourrait dire la mort est morte, après Dieu est mort, comme dirait Nietzsche, la mort est morte. Donc on ne parle plus vraiment de la mort, et on essaye de l'oublier, voilà, de la cacher. Voilà. Il n'y a plus trop de visites dans les cimetières. Voilà. On essaye de vivre le plus longtemps, quitte à créer un peu le jeunisme. Pourquoi pas le clonage pour nous aider à aller plus loin. Voilà, enfin, plein de choses comme ça. Et donc, il faut retrouver la mort. Voilà. Un prêtre me disait que le pape émérite Benoît XVI, hein, quand il était encore pape, ou même cardinal, avait fait cette réflexion que l'éternité n'est pas d'ici-bas. Et qu'un homme qui vivrait ici-bas éternellement, au bout d'un moment, il s'ennuierait. Ce ne serait pas humain, parce qu'on est fait pour le ciel. Donc la vie est plus ou moins courte, mais elle est humaine parce qu'elle nous prépare aussi au ciel. Elle serait inhumaine si ici-bas ils sont éternels, parce qu'on n'est pas fait pour ici-bas. Voilà. Donc l'homme qui oublie Dieu oublie le ciel, et en oubliant le ciel, ben, il veut faire qu'ici-bas devienne éternel. Mais en faisant cela, il fait son enfer. Parce que c'est inhumain de penser qu'on n'est fait que pour ici-bas. Ça ne veut pas dire qu'ici-bas, c'est pas bien, mais ici-bas, c'est qu'une préparation. Et ici-bas peut être plus ou moins court, mais c'est pas d'abord un scandale si c'est on vit que 20 ans, 25 ans. C'est que peut-être parfois que Dieu l'a voulu ainsi. Thérèse avec une 24 ans, ça suffit. Voilà. Mais si on comprend bien que ici-bas est une préparation pour là-haut, si on comprend pas cela, alors oui, c'est un scandale. Mais pour surmonter cela, il faut retrouver le sens que ici-bas est une préparation à là-haut. Et surtout que c'est très exigeant, comme nous le dit l'Écriture dans le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 27, « Les hommes ne meurent qu'une fois, après quoi il y a un jugement. » Les hommes ne meurent qu'une fois, après quoi il y a un jugement. Autrement dit, le sort de l'homme est éternellement fixé en fonction de l'état où la mort l'a trouvé. Le sort de l'homme est éternellement fixé en fonction de l'état où la mort l'a trouvé. L'Église nous enseigne qu'il n'y a pas de réincarnation. Ça, c'est important. Et pourtant, Dieu n'a pas voulu la mort. Et c'est important de l'entendre dans le livre de la Sagesse, au chapitre 1. Il est dit « Dieu n'a pas fait la mort. Il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Puis Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il en a fait une image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. » Et nous savons effectivement que cette tentation du démon qui a tenté Adam et Ève a fait qu'Adam et Ève ont perdu des grâces qui les maintenaient dans l'immortalité. Ils étaient finis, mais avec les grâces qu'ils avaient particulières, ils étaient maintenus dans l'immortalité, ils n'auraient pas dû mourir. Mais parce qu'ils ont désobéi à Dieu, tentés par le démon, ils ont été livrés à leur finitude, et ainsi la mort est rentrée dans le monde. Mais Dieu ne voulait pas la mort, et encore une fois, le livre de la Sagesse, au chapitre 1, nous le redit. Je le répète, Dieu n'a pas fait la mort. Il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Oui, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, il en a fait une image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Donc c'est bon à entendre cela. Hélas, depuis le péché des origines, on est tous condamnés à notre finitude, on meurt, et de fait, la mort nous apparaît comme un scandale, comme une coupure, et on ne supporte pas cela, et on a bien raison. Je disais que, effectivement, on est fixé sur notre sort au moment de notre mort, dans l'état où on est. Ce n'est pas quelque chose de dur, c'est la réalité. Et c'est important d'entendre les docteurs de l'Église nous le redire, dont le docteur de la douceur, saint François de Sales, qui disait que l'état auquel nous nous trouvons à la fin de nos jours, lorsque Dieu coupera le fil de notre vie, sera celui où nous demeurerons pour toute l'éternité. Saint Benoît, commentant l'évangile de Saint Jean, chapitre 12, avertit en ces termes « Si nous voulons échapper aux peines de l'enfer et parvenir à la vie éternelle, tant que nous sommes encore dans ce corps et que nous pouvons, à la lumière de cette vie, accomplir tout cela, il nous faut courir et faire maintenant ce qui nous profitera pour toute l'éternité. » C'est très important de penser cela, parce qu'il faut dénoncer quelque chose qui peut-être a petit à petit influencé le christianisme aujourd'hui, comme une forme de déresponsabilisation des chrétiens et de l'homme contemporain en général sur le sort qu'il aura après la mort par rapport à sa responsabilité ou sa déresponsabilité de sa vie maintenant. Envisager un instant au-delà de la mort où l'âme séparée pourrait encore se convertir, eh ben c'est une illusion, contraire à l'Écriture. C'est intéressant de l'entendre. Contraire à la tradition de l'Église, parce que notre agir humain est notre âme est intimement liée à l'agir humain dans le corps. Donc tout ce que nous faisons ici-bas prépare notre âme, voilà, conditionne le cheminement de l'âme. Il n'y a pas un con. C'est important. L'inverse serait d'assimiler l'âme à un esprit pur, et cela aboutirait à dépouiller la vie terrestre de sa portée d'éternité. Oui, comme si finalement l'âme elle-même va s'autodéterminer et qu'ici-bas, ça ne conditionne rien, ça ne prépare rien. C'est absolument faux. Voyez ? Donc ça redonne une dimension très sérieuse sur la responsabilité que nous avons de notre vie ici-bas, comment nous le vivons et comment nous nous préparons à la fin de notre vie, puisque la fin de notre vie fixe notre sort pour l'après. C'est important, ça motive à la conversion et ça motive à l'interpellation de tous à la conversion. Il faut tout de suite dénoncer ce qu'on pourrait appeler l'évangile selon saint Paul Naref, on ira tous au paradis. C'est une hérésie. Ce n'est jamais dit dans le futur. Ce n'est pas dit dans la tradition mystique. Ce n'est pas dit par les docteurs de l'Église et toute la tradition de l'Église. C'est pas vrai. Au moment de la mort, on est fixé sur son sort. Et encore une fois, recitons saint François de Sales, hein, docteur de l'Église, donc enseignement fiable, hein, que l'Église reconnaît comme valable pour tout temps. Que l'état auquel nous nous trouvons à la fin de nos jours, lorsque Dieu coupera le fil de notre vie, sera celui où nous demeurerons pour toute l'éternité. Voilà, c'est important d'entendre cela. Et Dieu, du coup, nous aide, et nous devons croire que Dieu veut nous aider jusqu'au bout à le choisir et à le préparer au cours de notre vie, de manière plus ou moins explicite. Dieu va donner les grâces nécessaires pour notre cheminement. Donc il nous faut nous tenir prêts jusqu'au bout en demandant l'aide de Dieu, et c'est ce que le Seigneur nous rappelle, hein. Voilà, il nous prend au sérieux en Luc 12, 39, 40. Comprenez bien ceci, nous dit le Seigneur, si le maître de maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne laisserait pas percer le mur de la maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. Car c'est à l'heure où vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Voilà. Donc ça, c'est important. Et Jean-Paul II, saint Jean-Paul II, disait dans son homélie du 23 avril 1995, « La civilisation contemporaine fait tout ce qui est en son pouvoir pour détourner la conscience humaine de l'inéluctable réalité de la mort, en tentant de pousser l'homme à vivre comme si la mort n'existait pas. La réalité de la mort est cependant évidente. Il n'est pas possible de la faire taire. Il n'est pas possible de dissiper la peur qui l'accompagne. L'homme craint la mort, comme il craint ce qui vient après la mort. Il craint le jugement et la punition. Et cette crainte a une valeur salvifique. Elle ne doit pas être effacée de l'homme. » Le Saint-Père nous dit que cette crainte est inscrite dans l'homme et qu'en plus elle est bonne parce qu'elle nous aide en gros à nous préparer à la mort, à nous stimuler à la conversion. Elle nous aide à accueillir le salut parce qu'on désire se convertir. En gros, on tient à sa peau. Elle est salvifique. Elle aide à accueillir le salut. Donc il ne faut pas la perdre, cette peur de la mort. Donc ne pas parler de la mort, ne plus avoir de culture de la mort, de vénération des morts, de se dire « mais je n'ai qu'une vie », de vivre dans l'illusion d'une fausse immortalité basée sur le matérialisme. Eh bien, ça conduit à sa perte. Parce que le sort de l'homme est fixé à la fin de sa vie. Et ça, c'est la première chose. Donc il faut sortir de l'illusion. Et nous avons un devoir de rappeler ça à nos contemporains. Certainement un devoir, déjà de nous-mêmes, de nous le dire, est-ce que je vis dans le formol spirituel ou pas, dans l'anesthésie là-dessus. Généralement, il y a un électrochoc au moment d'un enterrement. Il y a un électrochoc au moment où on voit quelqu'un qui va mourir jeune, qui a une grave maladie, un cancer, et on se dit, oh là, la vie est courte. On évite un accident de voiture, on s'en sort, oh là, la vie est courte, qu'est-ce que j'en fais? Parfois, il y a des conversions. Et voilà, il faut vivre avec cela, non pas de manière angoissante, comme une psychose, mais comme une crainte salvifique, comme dit Jean-Paul II, qui nous prépare. Voilà. Il ne s'agit pas d'être rabat-joie, mais il s'agit d'être vrai. Et celui qui est vrai, même s'il ne séduit pas au ciel, d'autres lui diront « Tu as eu raison, merci de me le dire. » Donc il faut le faire. Ça, c'est important. Donc voilà, ça c'est pour la mort. La mort. Ce que nous dit encore l'Église dans son catéchisme à propos de la mort, au moment de mourir, dans le numéro 1022, vous pourrez aller voir. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle. Alors nous savons tous, un homme c'est composé d'un corps et d'une âme. La dimension intellectuelle, c'est pas l'âme. L'âme, c'est quelque chose d'immortel. Voilà. Et ça se nourrit de la grâce de Dieu. Voilà. L'intelligence, ça se nourrit de lecture, de concept. Et le corps se nourrit de nourriture, de respiration. Voilà. L'âme est immortelle. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort en un jugement particulier. Donc maintenant, nous avons vu la mort, l'enjeu de se préparer à la mort, l'exercice de la bonne mort, de prier Saint-Joseph. Nous rentrons maintenant dans ce qu'on appelle l'examen final de l'âme. Chaque homme, nous dit l'Église, reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 1022. Je répète. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle, la récompense éternelle, dès sa mort, en un jugement particulier, c'est que pour elle, qui réfère sa vie au Christ. Tout est mesuré par rapport au Christ. Le bouddhiste, le musulman, l'agnostique, le nihiliste, le chrétien, tout est toujours mesuré par rapport au Christ. C'est l'alpha, l'oméga, la mesure de tous, qu'on le connaisse ou pas. Qui se réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, on va voir, c'est une purgatoire, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Donc au moment de mourir, trois alternatives, soit on accueille le salut et on est en état de sainteté et on rentre au ciel, soit on accueille le salut. Et c'est très bien, mais on n'est pas encore en état de sainteté et on va au purgatoire pour vivre une purification, on va en parler, soit on n'accueille pas le salut et à ce moment-là, on va en enfer. Voilà. Un auteur, voilà, je cite abondamment un petit livre que je vous conseillerai plus tard, voilà, à la fin de cet enseignement. Voilà ce que dit l'auteur de ce petit livre, un moine bénédictin, sur la question de l'examen final de l'âme. Le jugement particulier ne ressemble pas à ceux de nos tribunaux. Nul besoin de paroles, a fortiori de discours. Il s'agit d'un jugement tout intérieur où la conscience dégagée de toutes ses ignorances et de ses dissimulations devient un pur écho du jugement de Dieu. La lumière de Dieu tombera d'aplomb sur tous les actes libres que nous aurons posés au cours de notre existence, pensée, parole et actions les plus secrètes. Elle éclairera instantanément l'âme sur ses mérites et ses démérites, sur la sentence qui en résultera nécessairement. Saint Alphonse de Liguori, un autre docteur de l'Église, disait « Dans cette même chambre où vous aurez rendu l'âme et où Jésus-Christ vous aura jugé, on dansera, on mangera, on jouera et on rira comme auparavant. Et votre pauvre âme, où se trouvera-t-elle alors ? Voyez ? Donc c'est vraiment la prise de conscience qu'au moment de notre mort, on voit tout, on sait tout, et le jugement est fait de manière particulière sur chacun. Voilà. Dieu sait nos limites. Il est compréhensif. Le bon Dieu est bon. Mais le bon Dieu est aussi vrai et juste. Et il dit les choses. Voilà. Et qui a reçu plus devra plus rendre compte. Nous, chrétiens, de manière particulière, nous connaissons mieux que les autres ce que Dieu veut. Et donc, nous aurons à en rendre compte. Voyez ? Chose d'une vraie prise de conscience. Le curé d'Ars avait conscience de sa responsabilité de prêtre. Il savait qu'il en avait à rendre compte de la sainteté qu'il pouvait aider à acquérir aux âmes ou pas. Et il en tremblait. Voilà, ça c'est une vraie conscience de jugement personnel de l'âme. Dans l'Épître aux Hébreux, l'Écriture nous dit « Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. » C'est dans les Philippiens. Et voilà ce que nous dit le Seigneur dans l'Épître aux Hébreux. « Car c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » La prise de conscience de ce jugement qui est posé sur l'âme, voilà, au moment de la mort. Voilà. Alors on ne sait pas toujours exactement comment ça va se passer à la mort clinique, si c'est dans l'instant même ou quelque temps après. On ne sait pas. Là, il y a un mystère qu'on ignore. C'est comme cette femme que le curé d'Ars a rencontrée, qui avait eu le fils qui s'était suicidé, qui s'était jeté d'un pont, et le curé d'Ars lui avait dit, mais au moment entre le pont et le sol, il a demandé pardon. Là. Donc il y a un mystère indicible que nous ignorons. C'est le mystère des derniers instants. C'est pour cela qu'il faut jamais sacrifier la vie de quelqu'un. C'est pour cela, quelque part, que l'euthanasie est terrible, parce qu'on ne permet pas à l'âme de faire parfois les derniers choix. Parce que l'âme a des choix à faire sur sa destinée éternelle. Elle a des choix à faire qui se font au moment de sa mort. Il ne faut pas raccourcir la mort de quelqu'un, parce que c'est le choix ultime. C'est comme si vous prépariez toute votre vie au bac, puis au moment de passer l'examen, on dit « Ah, tu passes pas l'examen !» Attendez, on s'y prépare quand même. Donc, même si ce moment est douloureux, ce moment est très important. C'est le choix du oui. Et on voit du coup que la vie ici-bas, on disait, par rapport à la mort, on a une responsabilité. Ça veut dire aussi que le petit oui que nous faisons fidèlement de jour en jour conditionne le grand oui le jour de notre mort. Que le petit non que nous faisons de jour en jour rend plus difficile de faire un oui. Nous rouille à dire des oui. Voyez ? Donc, celui qui ne dit jamais de oui ici-bas au Seigneur, c'est pas dit que le jour de sa mort, il fera un grand oui. Parce que son cœur est endurci. Donc nous prions pour les agonisants parce que certains ont besoin d'aide pour dire un oui qui leur est rendu difficile par une vie détournée de Dieu. La foi est vraie. Et c'est plus facile de dire un oui final quand on s'est préparé à dire des oui. Ça redit encore la responsabilité de chacun dans sa vie. Et en même temps, il y a des combats spirituels au moment de la mort qui sont mystérieux. Il y a des luttes, il y a des êtres qui rendent l'âme et on voit un visage de tension. Pas forcément simplement par la maladie, mais parce qu'il s'est joué un combat spirituel. Il y en a un qui ne voulait pas que l'âme aille au ciel. C'est le démon. Et nous, donc, nous prions pour les agonisants. Nous donnons le viatique. Voilà. Il y a des saints qui ont des grands combats, mais parfois ces saints portent les autres dans leur combat. Voilà. Ils portent les autres dans leur combat. Voilà, cette âme sainte, le démon veut la tenter, mais si elle dit son oui final, ben elle attirera d'autres avec elle. Voilà, elle va faciliter le cheminement de d'autres. Voyez. Donc là, il y a un vrai enjeu, donc il faut prier pour les agonisants. Voilà, il faut avoir cette miséricorde de veiller les morts, de veiller ceux qui vont mourir et de les prier. La plus grande chose que nous pouvons faire, c'est de prier. Alors, on va commencer de bas vers le haut. De bas vers le haut. Donc, on peut demander les sacrements des malades, l'extrême onction. Voilà. Donc, les gens, des fois, ils ont peur, surtout nos aînés, de recevoir l'extrême onction. C'est-à-dire, non, mon père, vous n'avez pas lui donné l'extrême onction. Si vous le faites, c'est-à-dire qu'il va mourir. Mais il faut peut-être se préparer. C'est-à-dire, c'est pas tant pis, on va mourir. Il faut peut-être se préparer. C'est une grâce qui va préparer notre cœur. Et bien souvent, il y a une grande paix après pour les âmes qui ont reçu cette grâce-là. Donc ça va préparer notre cœur et on va prier. Vous allez vous confesser. Voilà, il faut inviter les gens à se confesser. Parce que voilà, pour que l'âme soit purifiée. Voilà. Ça peut courter, hein, le purgatoire. Voilà. Il y a des choses qui peuvent être faites. Donc ça, c'est très important de parler de tout ça. Et de... Voilà, on a une responsabilité, nous chrétiens. Alors parlons de l'enfer. Voilà. On imagine qu'une âme ne veut pas que le Seigneur, qu'elle accueille le salut du Seigneur. Voilà. Le Seigneur, encore une fois, fera tout ce qu'il peut pour permettre à l'âme d'aller au ciel. Ici, on va voir ça. S'il y a des âmes en enfer, on ne peut pas dire à Dieu, t'as pas fait tout ce que tu pouvais. C'est pas vrai, il a fait tout ce qu'il pouvait. On va être très honnête, il fait tout ce qu'il peut pour qu'on soit tous saints au moment de notre mort. Il faut être très clair là-dessus. Il fait tout ce qu'il peut pour qu'on soit saints au moment de notre mort. C'est nous qui parfois n'accueillons pas toute la grâce. Et donc il reste après à être purifié. Mais Dieu vraiment donne tout ce qu'il peut. Et l'enfer est une réalité. Alors ce n'est pas le barbecue représenté de version médiévale. Mais c'est la condition sine qua non pour faire un choix libre entre je choisis Dieu ou pas. Et il existe un lieu en effet où on peut vivre sans Dieu pour l'éternité, c'est l'enfer. Voilà. Sinon on est des pantins qui, le choix qu'on fasse ou pas, on va au ciel. Ben non, Dieu nous laisse libre ou pas de choisir. Et cette vie est une préparation. Voilà, il faut être très conscient de cela. Alors parlons en même temps maintenant de l'enfer. L'enfer est donc une réalité de l'Église. Voilà, il faut avoir conscience, l'enfer existe, c'est une réalité de l'Église. Si nous citions le catéchisme de l'Église catholique, voilà ce que dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1033. Nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir librement de l'aimer. Mais nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui, contre notre prochain ou contre nous-mêmes. C'est ce que dit la première épître de Saint Jean, chapitre 3. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un homicide. Or, vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui. Notre Seigneur nous avertit que nous serons séparés de lui si nous omettons de rencontrer les besoins graves des pauvres, des petits qui sont nos frères. Mourir. Donc vous voyez, c'est ce que dit encore Saint Jean de la Croix, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Mourir en péché mortel, sans s'en être repenti, dit l'Église, et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu, signifie demeurer séparés de lui pour toujours, par notre propre choix libre. Et cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux qu'on désigne par le mot « enfer ». Auto-exclusion de la communion avec Dieu, avec les bienheureux, c'est-à-dire les saints. Et ça arrive comment? Quand nous ne choisissons pas Dieu. Voilà. Et que nous mourons en péché mortel. Vous voyez, on peut vivre dans la grâce, l'union à Dieu, les péchés, les petits péchés, diminuent cette grâce, péchés véniels, qui peuvent endiguer la grâce, et un gros péché peut nous couper. Donc en cela, la confession est une résurrection, on revit dans la grâce. Mais si nous mourions en état de péché mortel, il n'y a pas de sacrement de pardon après, hein, il est donné toute la vie pour ici-bas pour nous préparer, et bien l'âme est séparé de Dieu éternellement. Ce que je dis là, c'est pas le Père Jean-Marie Parra, c'est la foi de l'Église, hein, depuis 2000 ans. Voilà, donc il faut avoir conscience. Est-ce, voilà, est-ce qu'il vit en péché d'être immortel? Est-ce que je vais prier pour lui pour qu'il se convertisse? Parce qu'il en a besoin. S'il meurt aujourd'hui, ben, c'est pas bon. Hein. Alors, il ne s'agit pas de faire une prédication terroriste, il ne s'agit pas de faire peur, de faire des sphères froides aux gens, mais il s'agit d'avoir conscience de ça. Voyez. Et dans une des œuvres de miséricorde, il est dit avertir les pécheurs. Le pape François lui-même a dit ça au mafieux. Si vous ne changez pas, vous irez en enfer. Voilà. Le pape de la miséricorde. Hein. Donc il faut avoir conscience de cela. C'est très important. Donc l'enfer existe. C'est une condition possible. L'Église ne fait pas des procès de damnation comme elle fait des procès de canonisation. On ne sait pas qui est damné. C'est très important. Comme on ne sait pas tous ceux qui sont au ciel. Mais il y en a, dont on est sûr, c'est ceux qui ont, après, parce que Dieu l'a voulu, qu'ils soient canonisés, béatifiés, et qui servent d'exemple. Mais il y a bien plus que ceux-là qui sont au ciel. Béni soit le Seigneur, sinon ce serait un peu élitiste et limité. Mais de fait, l'Église espère pour tout homme le salut. Et nous avons à espérer pour tout homme, y compris pour Hitler. Peut-être Hitler s'est converti au moment de sa mort. Il a eu peut-être des grâces particulières. Comme le bon larron. Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu rentreras, quand tu iras, seras dans ton royaume. Mon ami, je te dis aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Une grâce de miséricorde a été donnée. Hein? Donc elle peut être donnée. Nous devons espérer pour tout le monde, c'est clair. Et en cela, l'Église ne se prononce pas sur aucune des personnes. Ça relève de Dieu. Pas de procès de damnation. C'est important. Mais l'enfer, ce n'est pas le petit bâton qu'on agite pour faire un peu peur aux chrétiens, pour dire « Attention, il faut que tu changes de vie. Et t'inquiète pas, après, il n'y a rien. C'est simplement le Seigneur qui va nous faire peur. » Non, c'est vrai. On peut aller en enfer. Et les révélations reconnues par l'Église de Fatima ou encore le message de Sœur Faustine nous rappellent même qu'il y aurait des âmes en enfer. Je cite Sœur Faustine. « Moi, Sœur Faustine, par ordre de Dieu, j'ai été dans les gouffres de l'enfer pour en parler aux âmes et témoigner que l'enfer existe. J'ai remarqué une chose, qu'il y a là-bas beaucoup d'âmes qui doutaient que l'enfer existe. » Quand je suis revenu à moi, je ne pouvais pas apaiser ma terreur de ce que les âmes y souffrent terriblement. C'est pourquoi je prie encore plus ardemment pour la conversion des pécheurs. Sans cesse, j'appelle la miséricorde de Dieu sur eux. De la même manière, la Vierge Marie est apparue à Fatima, à François, Lucie, Jacinthe, et leur a montré l'expérience de l'enfer. Donc c'est possible. Voilà, c'est possible. Et il faut être honnête, et à titre personnel, je partage assez l'avis de cet auteur spirituel, le père Jean-Marc Beau, qui dit « Nulle part on ne trouve dans l'écriture la problématique qui domine la pensée actuelle sur l'existence seulement hypothétique d'un enfer peuplé. L'existence des êtres humains damnés est affirmée comme une évidence jamais remise en cause. Quand cette affirmation n'est pas directe, elle est implicite. Par exemple, Jésus précise, en réponse à une question sur le nombre des sauvés, qu'il y aura beaucoup de gens perdus. Citation. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. De même, à la fin du grand tableau sur le jugement dernier, Jésus conclut, et s'ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. On n'imagine pas, dit cet auteur spirituel, la parole de Dieu lançant des discours et des avertissements sur un ensemble vide. De deux choses l'une, ou bien il y a des damnés, ou bien il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, tout le langage de l'Écriture sainte apparaît comme le plus odieux, des avertissements se présentant comme des prédictions et introduisant le lecteur en erreur. Dieu nous menace d'un risque imaginaire pour nous faire marcher droit. Et comment imaginer qu'il faille attendre 19 siècles pour entrer dans l'intelligence véritable de l'Évangile sur un point aussi important? Non, oui, c'est pas un canular, c'est possible. Ah, c'est impossible. Jésus ne n'agite pas le bâton pour dire « Attention, je vous fais peur, ne vous inquiétez pas, tout va bien. » C'est réellement possible. Donc ça, c'est à prendre au sérieux. Et le magistère, encore une fois, n'a jamais fait de procès de damnation. C'est clair. Mais l'expérience mystique reconnue par l'Église, Thérèse d'Avila, Fatima, Sœur Faustine, montre qu'il y aurait des âmes en enfer. Donc on peut le prendre au sérieux. C'est intéressant de dire que Sœur Faustine, il y a des âmes qui sont en enfer qui pensaient que l'enfer n'existait pas. Vous voyez ? Donc la non-prise de conscience que sa vie peut finir mal si on vit ainsi. Dieu vraiment nous avertit pour notre bien, non pas pour nous juger, parce qu'il prend soin de nous. Il nous laisse libres. Et encore une fois, en cela, il est bon et juste. C'est important. En enfer, ce qu'il se passe, c'est que nous sommes privés de l'amour de Dieu. Nous sommes privés de l'amour de Dieu. Et donc, du coup, cette souffrance de la privation de l'amour de Dieu est quelque chose, ce qui fait le plus souffrir les âmes, c'est la perte, voilà, de l'amour de Dieu. Ce qu'on appelle encore les peines de l'enfer. C'est ce que dit encore l'Écriture dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Ceux-là, dit saint Paul, seront châtiés d'une perte éternelle, éloignés de la face du Seigneur. Jésus le dit encore, « Je ne sais d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Voilà, « Éloignez-vous de moi. » Et dans Matthieu 25, 41, « Allez au feu éternel. » Allez au feu éternel. Et là, du coup, on a un peu les représentations, comment dire, naïves du barbecue, comme on peut les connaître, médiévales. Mais ça dit quelque chose de ce tourment de l'âme qui durera parce que privé de l'amour de Dieu. Voilà. Et l'Écriture nous avertit là-dessus. Je cite encore, saint Thomas nous dit cependant que dans la condamnation des réprouvés, la miséricorde de Dieu se manifeste quand même par une certaine atténuation de la peine, car Dieu punit en deçà de ce qui est mérité. Vous voyez, c'est étonnant. Malgré tout, Dieu va diminuer un peu la peine. Parce qu'il est bon. Il laisse libre. Il se montre miséricordieux envers nous. Donc ça, c'est important d'entendre cela. Et pouvons entendre encore une fois Sœur Faustine là-dessus. Elle nous dit « Chaque âme est tourmentée d'une façon terrible et indescriptible par ce en quoi ont consisté ses péchés. Chaque âme est tourmentée d'une façon terrible et indescriptible par ce en quoi ont consisté ses péchés. » Voilà. Selon les vices qu'on aura pris, il y a quelque chose du tourment qui se fera. Comme le manque d'amour de Dieu là-dessus, et du coup ça fait une souffrance. Voilà. C'est comme une plaie qui suppure, et qui suppurera toujours parce qu'elle n'a pas voulu accueillir le médicament, donc du coup, cette plaie-là, elle fait souffrir, vous voyez. C'est une réalité. Alors, qui est menacé de l'enfer? C'est intéressant, qui est menacé de l'enfer? Ceux qui refusent de croire à l'Évangile et de se convertir. Ça, c'est important. Ceux qui refusent les préceptes de l'Église, en particulier le commandement de la charité. J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Et alors, quand nous disons cela, de fait, convertissez-vous, quand nous mettons les cendres au carême, convertissez-vous et croyez à la vie éternelle, c'est une proposition pour accueillir le salut, pour être sauvé. Mais vous pourrez me dire, mais alors il y a des gens qui ne sont pas sauvés parce que voilà, ils n'ont pas connu l'Évangile de leur vie, c'est injuste. De deux choses, nous avons un devoir de leur annoncer l'Évangile, et c'est pour ça que l'Église est missionnaire, pour le salut du monde, ce qu'on réclame dans la messe, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Et en même temps, Dieu est bon, il prend chacun là où il en est. Et si la personne dans son cheminement se rapproche de l'Évangile, elle sera jugée par rapport où elle en avait de connaissance. Et dans son cheminement au fort intérieur, sur Dieu le sait, selon son cheminement, si elle avait su plus, elle aurait pu peut-être choisir l'Évangile. Si elle avait su plus, peut-être qu'elle aurait refusé l'Évangile. Voyez ? Donc Dieu est juste là-dessus. Il y aura peut-être des saints hindous, des saints musulmans, et qui auraient choisi le Christ s'ils l'avaient connu. Mais notre devoir, c'est de leur annoncer le Christ. Parce qu'effectivement, ça accélère la possibilité de choisir. Voyez ? Ça, c'est très important. Alors, vous voyez, il y a un seul péché qui ne sera pas pardonné. C'est le péché contre l'Esprit Saint. Il est dit dans l'Écriture. Qu'est-ce que c'est que ce péché contre l'Esprit Saint ? Ce péché contre l'Esprit Saint, c'est effectivement le fait de ne pas accueillir le salut, de ne pas accueillir la grâce de Dieu pour être sauvé. Le Saint-Esprit veut nous sauver. Il participe avec le Fils éternel au salut. Hein. Voilà, il nous sanctifie. Quand Jésus nous donne les sacrements, en particulier la confession, le baptême qui fait rentrer dans le salut, la confession qui sans arrêt réactualise notre baptême, nous ressuscite si on est en péché mortel, pour éviter la mort, si jamais nous mourions ici-bas, ben c'est une action du Saint-Esprit. Donc on peut accueillir la grâce. Le Saint-Esprit peut nous amener à faire au moment de notre mort de grands actes de charité qui vont nous mériter le ciel. Je parle de mérite parce que le ciel est donné gratuitement, mais l'homme collabore. Confère Saint-Augustin, Dieu t'a créé sans toi, mais il ne te sauvera pas sans toi. Tu dois librement y adhérer. Et ce n'est pas simplement la pieuse idée, si tu dois du coup y adhérer dans ton corps, dans ton être, dans ton âme, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de ton âme, donc c'est-à-dire que tu choisis cette vie-là. Donc voyez, l'accueil de cela, c'est l'accueil du Saint-Esprit. Le refus libre de toutes ces grâces qui sont données, c'est le refus du Saint-Esprit. C'est le péché contre l'Esprit. Et ça, Dieu ne peut rien faire. Si la porte, nous sommes comme une porte avec une poignée qui est que à l'intérieur. Il y a des représentations de tableaux comme ça. La poignée n'est que à l'intérieur. Dieu frappe, mais il n'y a que nous qui pouvons l'ouvrir. Dieu frappe avec le Saint-Esprit. Si on n'ouvre pas la porte, on ne reçoit pas. Voyez ? Et ça, c'est le fameux expression du cœur qui s'endurcit. Du nom petit, petit, de petit nom en petit nom, la fin de vie, ben, on peut dire un grand nom. Et il est difficile d'accueillir le salut. Donc on doit espérer pour tout le monde et prier pour les pécheurs. Confère message de Lourdes. Prier pour les pécheurs. Voyez, cet enjeu de la conversion jusqu'au bout, c'est important. Une grande miséricorde, c'est le pur. Donc c'est clair, hein, s'il y avait à douter, dans l'Écriture, il parle de l'enfer, Jésus nous avertit, c'est dans toute la tradition de l'Église, les mystiques le confirment. C'est pas le petit bâton pour nous mentir et nous faire peur, c'est une réalité. Voilà. C'est très important de voilà, d'avoir ça en tête. On passe maintenant au purgatoire. Voilà. Quand l'âme accueille le salut à sa mort, par le combat, il peut y avoir du combat, elle s'y est préparée, ou elle n'a pas été purifiée complètement, mais quand l'âme accueille le salut à sa mort, eh ben, mais qu'elle n'est pas complètement sainte, nous avons la possibilité, par surgrâce, de recevoir la grâce du purgatoire. Et quand nous disons cela, on va s'arrêter un instant. Donc, une deuxième miséricorde, c'est quand nous accueillons le salut, mais que nous ne sommes pas pleinement dans la grâce, pleinement saints, Dieu nous accorde la possibilité de continuer notre purification. C'est le purgatoire. Voilà. Ce purgatoire, c'est déjà un signe d'espérance. On fait partie de l'Église quand on est au purgatoire. Vous avez trois niveaux d'Église. Hein. Vous avez l'Église pérégrinante, c'est ici-bas, on est en chemin vers le ciel. Vous avez l'Église souffrante, c'est l'Église au purgatoire, qui est purifiée. Et vous avez l'Église glorieuse, triomphante, c'est celle qui est au ciel, au paradis. Donc ces trois lieux, c'est l'Église. En enfer, c'est plus l'Église parce qu'il n'y a plus lieu. Voilà. Donc, le Seigneur donne cette grâce de purification au purgatoire. C'est une grâce de purification passive. Pourquoi ? Parce qu'ici-bas, nous pouvions participer à notre purification par l'ascèse, le jeûne, l'aumône, c'est ce qu'on ressent au carême, la charité, et aussi par les grâces de Dieu qui nous sont données. Grâce de purification, grâce de charité, voilà tout ça. Donc ça, on y participe, on collabore à notre salut. Arrivée au purgatoire, l'âme ne peut plus mériter pour elle-même. Voilà comme elle est dès, comment dire, au moment de la mort. Voilà l'homme, le destin de l'homme, il est figé. Donc l'âme ne peut plus rien faire pour elle-même. Et donc Dieu, si elle a accueilli le salut mais qu'elle n'est pas en état pleinement de grâce et de sainteté, elle choisit le purgatoire. C'est donc qu'elle a choisi le salut. Hein? Des fois, on a une terreur du purgatoire. « Oh, le purgatoire !» Mais elle a choisi le salut. C'est déjà être dans l'espérance. Ça veut dire qu'elle est sauvée. C'est important de dire ça. Mais du coup, c'est Dieu qui va la sanctifier et la purifier parce que l'âme ne peut plus elle-même mériter pour elle. Elle ne peut plus travailler à sa propre sanctification. C'est fini, le temps est écourté. Et donc, du coup, nous, elle a besoin des prières de ses frères et sœurs et de la grâce de Dieu pour se purifier. C'est pour ça que nous prions pour les âmes du purgatoire. C'est pour ça qu'il y a des sanctuaires qu'on fait, Montlignon, des âmes du purgatoire. C'est pour ça que nous faisons dire des messes pour les âmes du purgatoire. C'est pour ça que le meilleur cadeau pour son défunt, c'est pas simplement le bouquet de fleurs sur la tombe, avec les 15 000 bouquets de fleurs, mais ce serait peut-être plutôt les 15 000 messes pour le mort. Parce que c'est beaucoup plus important, c'est le plus beau cadeau qu'on peut lui offrir. Hein, parce que c'est l'enjeu, c'est qu'il soit plus vite purifié. Voyez. Donc ça, c'est vraiment important. Donc faire dire des messes pour les mourants, pour les morts, c'est important. Pour les mourants, pour qu'ils accueillent le salut. Pour les morts, s'ils sont purgatoires, c'est pour qu'ils deviennent saints. Voilà. Donc ça, c'est important. Voilà ce que nous dit l'Église. L'Église, alors, le purgatoire, ça, c'est fondement dans l'Écriture. C'est pas qu'une invention encore de l'Église au Moyen-Âge pour faire peur, et on a gardé cette réminiscence et on terrorise tout le monde. Non, c'est dans l'Écriture. C'est moins déployé, en effet, que l'enfer, mais c'est dans l'Écriture. Premièrement, c'est dit dans toute la tradition de l'Église, et c'est confirmé par l'expérience des mystiques. Très intéressant. Voilà ce que dit l'Église. Dans le catéchisme, au numéro 1030 et 1032, l'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. Oui, c'est différent. Là, on accueille le salut. L'Église a formulé la doctrine de la foi relative au purgatoire, surtout au concile de Florence et de Trente. La tradition de l'Église faisant référence à certains textes de l'Écriture, par exemple, vous pourrez aller voir 1 Corinthiens 3,15, 1 Pierre 1,7, qui parle d'un feu purificateur. Cet enseignement s'appuie aussi sur la pratique de la prière pour les défunts, dont parle déjà la Sainte Écriture. Et oui, on priait pour les défunts, et dès l'Ancien Testament. Donc si on priait pour les défunts, c'est que de fait, il y avait quelque chose à faire pour eux. Et donc ils ne sont pas en enfer, parce que pour eux, là, en enfer, il n'y a plus rien à faire. Donc, entre parenthèses, ça ne sert à rien de prier pour la conversion de Satan ou des démons. Il y en a un qui a voulu y penser, c'est Origène, c'est une hérésie. Pour toujours, ils ont fait le choix d'être séparés de Dieu. Donc pour toujours et jusqu'à la fin de l'éternité, toute l'éternité, ils seront en enfer. Voilà. Mais pas s'il y a la prière pour les défunts, c'est qu'effectivement, eux ne sont pas en enfer. Et c'est ce qui nous est dit dans l'Écriture, dans le deuxième livre des Maccabées, chapitre 12, verset 46. Voilà pourquoi Judas Maccabée fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Donc vous voyez, sous-entendu dans ces versets-là, dans l'Ancien Testament et au Nouveau, on a cette réalité du purgatoire, qui sera formulée plus tard dans le concile de Florence et de Trente. Et de fait, des mystiques ont vécu cette expérience-là pour nous avertir. C'est intéressant. Catherine de Gênes, vous pourrez aller voir, elle a écrit un traité du purgatoire qui est un grand classique. Dieu lui a donné cette grâce-là, Sainte Catherine de Gênes. Voilà ce qu'elle nous dit. « Je vois que le ciel n'a pas de porte et peut y entrer qui veut, car Dieu est toute bonté. Mais la divine essence est si pure que l'âme ayant en soi un empêchement se précipite elle-même dans le purgatoire et y trouve cette grande miséricorde, la destruction de cet empêchement. Si elle pouvait trouver un purgatoire plus pénible, dans lequel elle puisse être plus vite purifiée, elle y plongerait aussitôt. » Qu'est-ce que ça veut dire? L'âme du défunt a décidé, non pas elle peut mériter pour elle-même l'âme du défunt, je vous ai dit que c'est plus possible, mais elle choisit elle-même d'y aller, avec empressement. Elle a conscience de son bien. elle veut le faire, quitte à choisir des peines, des souffrances purificatrices plus grandes, pourvu qu'elles soient plus rapides, il faut aller au ciel le plus vite possible, elle désire cela. Voyez. Donc nous qui, parfois, ayons peur du purgatoire, en réalité, les défunts, quand ils vont au purgatoire, ils sont contents, ils décident d'y aller, parce qu'ils ont conscience de leur salut. Intéressant, ça. Intéressant. Qu'est-ce qui se passe au purgatoire? Ça purifie, hein. C'est la machine à laver accélérée. C'est d'abord la purification de la sculure, d'abord. C'est important. C'est-à-dire qu'une âme ne peut pas rentrer si elle est en état de péché mortel, parce que ça mérite l'enfer. Et pour cela, il faut demander pardon à Dieu avant ou accueillir la miséricorde de Dieu, en ayant le désir de se convertir, de changer de vie, et Dieu dans sa miséricorde. Si une âme ne l'accueille pas, ben voilà, elle va en enfer. Mais une âme qui serait par exemple en état de péché véniel, qui n'aurait pas regretté tel ou tel péché, qui n'aurait pas réparé, voilà, j'ai demandé pardon à Dieu de... Voilà, des états de tâches sur l'âme, ben Dieu va purifier cela. Et cette purification, elle est douloureuse selon les traces du péché dans l'âme. Voyez ? Donc les douleurs sont plus ou moins importantes. Mais c'est déjà une entrée en Dieu, parce que Dieu purifie, et cette action de purification, c'est une entrée dans le mystère de Dieu. Donc c'est un signe d'espérance. Et encore une fois, l'âme l'a librement voulu. Et puis deuxièmement, il y a la satisfaction ensuite de la purification, la satisfaction qui vient du latin satis facere. Ça veut dire faire assez. En effet, c'est-à-dire de réparer ce qu'on n'a pas fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous demandez, vous avez volé un bol, j'ai volé un bol de chocolat. Voilà. Vous avez volé, je ne sais quoi, voilà, des bonbons. Vous demandez pardon au bon Dieu, très bien, mais vous avez causé un tort à quelqu'un, c'était le bol de chocolat, c'était les bonbons. Il faut réparer, il faut satisfaire. Et pour cela, soit nous faisons ici-bas, par des actes de charité, nous réparons en toute justice, mais si nous ne pouvons pas, ben de fait, il faudra faire au purgatoire. Vous voyez? Et donc du coup, Dieu lui permet d'accélérer le processus de purification. Nous, ici-bas, nous pouvons prier pour les âmes purgatoires en demandant l'indulgence plénière, la purification et la satisfaction de toutes ces peines temporelles, c'est-à-dire tous ces désordres qu'ont causé des péchés qu'il faudra réparer. On peut le demander pour les âmes purgatoires, c'est la démarche d'indulgence plénière. Donc il y a des indulgences partielles, autrefois on comptabilisait ça, il y avait un jeu de calcul, mais l'Église a simplifié ça, évidemment. Une indulgence plénière qui aide à la purification et une qui purifie complètement. L'indulgence plénière, pas partielle, c'est plénière. Et quand nous la demandons pour une âme, de fait, nous aidons l'âme à rentrer directement au paradis. C'est grand la solidarité. Voyez, c'est grand la solidarité que nous pouvons avoir avec les âmes du purgatoire. Et donc, on peut demander ces grâces-là des fois ici-bas pour nous, pour redemander à une indulgence plénière que les conséquences temporelles de notre péché soient effacées. Donc là, de fait, on n'aurait pas de traces sur tous ces péchés. Donc vous voyez, grâce de purification, si la purification n'a pas été complète, et grâce de satisfaction, c'est-à-dire on répare ce qui doit être réparé. Mais la personne ne peut pas réparer, donc elle a besoin d'aide. Elle a besoin de la grâce de Dieu, elle a besoin de la communion des saints, parce que son temps est écoulé. Je vous ai dit, elle est passive, l'âme, là-dedans. Vous voyez ce mystère de l'épître aux Colossiens, se vit ici-bas. On peut vivre la souffrance du Seigneur, une participation, mais on la vit aussi au purgatoire. Confère Colossiens 1, chapitre 1, verset 24. « Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. » Donc il y a quelque chose d'une purification de l'être qui se fait. Purification de l'être. Je complète en ma chair cette purification pour participer pleinement au corps mystique de l'Église, pour arriver au ciel. Voilà. Voilà, bon, j'ai parlé un petit peu du purgatoire, je ne vais pas en développer plus. Ce que pourrait dire encore Catherine de Gênes sur le traité du purgatoire, nous pouvons entendre cela, et nous terminerons avec ça. Les âmes du purgatoire ont tout ensemble une joie extrême et une extrême souffrance, sans que l'une soit un obstacle pour l'autre. Je répète, Les âmes du purgatoire ont tout ensemble une joie extrême et une extrême souffrance sans que l'une soit un obstacle pour l'autre. Et les souffrances, je pense, que les souffrances que nous vivons au purgatoire sont de très grandes souffrances qui ne sont pas comparables ici-bas, dans la purification, parce qu'on voit tout en réalité. Mais en même temps, il y a une joie qui est donnée, qui soutient l'âme, voilà, du désespoir de tout ça, parce qu'elle chemine avec Dieu, et Dieu la saisit et la purifie de Dieu. Donc c'est dans l'espérance, c'est dans l'espérance. Mais notre charité, c'est d'écourter ce temps de purification. Et nous pouvons le faire. Voilà. Alors maintenant, passons au ciel. Au ciel, quand même. Ça, c'est le soubassement. On est maintenant, on a le rez-de-chaussée, c'est ici-bas. Il y a le purgatoire, premier étage. Mais allons en haut, sur la terrasse. On est fait pour le ciel. Et ça, c'est très important. Alors le ciel, qu'est-ce qu'on fera au ciel? On goûtera la joie de Dieu. On goûtera la joie de Dieu. Et on verra Dieu. On verra Dieu. Et cette joie nous rendra heureux. C'est ce qu'on appelle la vision béatifique. La vision qui rend heureux. On verra véritablement la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous les verrons. Nous les verrons. Nous verrons ce Dieu mystérieux qui est source de toute création, qui est pure énergie, pure vie, pur mouvement, pure lumière, pur amour. Nous le verrons. Et ça nous remplira d'un très grand bonheur. Nous verrons les saints. Nous aurons des relations avec les saints. Nous verrons la Vierge Marie. C'est extraordinaire. Nous verrons les saints. Il y aura une amitié entre nous fraternelle, des liens de charité qui seront sauvegardés. J'insiste là-dessus parce qu'au ciel, on n'est pas marié. C'est très important. Au ciel, on n'est pas marié. Le mariage est pour ici-bas. Donc c'est important parce qu'on a posé cette question à Jésus. Une femme a eu 7 maris. Il y en a un qui est mort, il y en a un autre qui est mort, il y en a un, ils n'ont pas eu d'enfant, avec lequel au ciel, elle sera mariée. Jésus leur a répondu, au ciel, on est comme des anges. Sous-entendu, on n'est pas des anges, parce que nous, de fait, on va voir, au ciel, on va venir un jour corps et âme. On est fait pour être corps et âme, pas simplement âme, mais pas des purs esprits. Mais on est comme des anges, c'est-à-dire on est tourné vers Dieu, et Dieu est notre joie, et on loue Dieu et on adore Dieu. En cela, la vie consacrée, plus qu'encore que la vie sacerdotale, la vie consacrée est le modèle de ce que sera l'humanité au ciel. C'est donc, la vie consacrée, c'est un signe eschatologique, c'est-à-dire un signe de la fin des temps. On verra ce qu'est la condition au ciel. Et donc au ciel, on est comme des anges, même les mariés ne sont plus mariés. D'ailleurs, un marié ici-bas, si l'un des deux arrive au ciel, l'autre peut se remarier. C'est un moyen pour aller vers la sainteté. Mais les liens de charité seront sauvegardés. Parce que Dieu est le Dieu de l'histoire, et les liens que nous aurons entre nous seront sauvegardés et purifiés. Voilà. Dieu n'annule pas tout. Et c'est important de le dire. Mais c'est important de penser aussi que ce qui prime, c'est l'amour de Dieu. Et la finalité, c'est Dieu. Vous voyez, il n'y a pas, la finalité, c'est pas le lien humain, c'est Dieu. Et c'est important. Et cette vision de la Trinité nous remplira de joie. Voilà. Il y aura, alors je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Ce qu'on va faire. Ce qui est sûr, c'est que Dieu fait goûter des fois cet amour ici-bas de manière très forte. Et c'est tellement fort que Dieu d'un seul coup se retire, parce que sinon l'âme, elle explose. Thérèse de Lisieux a ce témoignage que le jour de la Trinité, elle s'est consacrée à la miséricorde divine. Et elle a reçu dans son âme une forte intensité de l'amour de Dieu, dans ce qu'on recevra au ciel, on goûtera. Or, si ça avait duré un peu plus longtemps, elle a senti qu'elle allait se rompre, mon avis. Et donc ça, c'est, moi j'aime à dire, ça c'est le phénomène de l'extase. On sort de nous-mêmes, et ça dure qu'un temps, sinon ben, on meurt. Et il y a des morts d'amour. Il y a des morts mystiques d'amour, c'est-à-dire l'âme est saisie tellement par Dieu que ça se sépare d'amour. C'est mystérieux, hein? Et en fait, moi j'aime à dire, l'extase, c'est le bon Dieu qui montre son petit orteil. Quand il aura tout montré, ça va rompre partout. Donc il faut avoir conscience que c'est beau ce que Dieu a préparé pour ses élus. Voilà. que, encore une fois, si nous méditons l'hymne à la charité, 1 Corinthiens 13, comme dit saint Paul, nous connaîtrons comme nous sommes connus. Ici, nous voyons que sous apparence, sous voile, comme sous miroir. Là, à ce moment-là, nous verrons. Et au ciel, de fait, nous n'avons plus besoin de la foi, ni de l'espérance, parce que ces vertus nous aident ici-bas à avancer, on croit sans voir, et donc du coup, cette foi nous donne le contact à Dieu, on touche Dieu par la foi, mais on ne le sent pas, etc., sauf des grâces sensibles, mais ce n'est pas encore l'extase, ce n'est pas encore le bonheur que Dieu nous promet. L'espérance nous fait recevoir les grâces qui vont nous aider à cheminer et nous tend vers le ciel, ce qui nous permet de nous garder dans le cheminement. Ça, il faut garder l'espérance pour jamais se décourager ou même pour se corriger, pour éviter de tomber dans la perte de son salut. On a vu ça. Mais une fois qu'on a le ciel, on n'a plus besoin d'espérer, on a obtenu l'objet qu'on cherchait. Donc, saint Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13 que la plus grande vertu, les trois vertus théologales, c'est la charité. Les deux autres, elles passeront. Ce qui restera là-haut, c'est la charité. D'ailleurs, voilà, j'en ai cité tout à l'heure saint Jean de la Croix, soit de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. La charité, ce don divin qui est donné par Dieu au baptême et qui doit s'amplifier par l'union à Dieu, qui sanctifie les âmes, qui est la vie de l'âme, et au ciel, en fait, Dieu est charité, il rayonne de charité, nous vivons dans une atmosphère de charité, des liens entre nous sont des liens surnaturels de charité. C'est mystérieux, mais c'est ainsi, et c'est une grande joie, c'est une béatitude qui n'a rien à voir avec ici-bas. C'est un ravissement. C'est un ravissement. C'est extraordinaire, ça. Dieu nous dit très peu de choses. Mais dans certaines expériences de paix, de présence spirituelle, on entrevoit quelque chose de cela. Vous voyez, dans les morts saintes de personnes comme Thérèse Lisieux, grand sourire, après le combat qu'il y a eu, et bien là, on entrevoit quelque chose de la béatitude. Donc c'est possible. C'est possible. Et ça, Dieu le propose à tous. Dieu le propose à tous. C'est grand, hein? Qu'est-ce que nous dit l'Église sur le ciel? De son catéchisme, au numéro 1023, ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu et qui sont parfaitement purifiés. Donc on peut demander ici-bas, Seigneur, je vais faire mon purgatoire. Tu mets le papier, moi je veux être sainte à l'arrivée et je désire être saint. Vous pouvez demander, comme dirait Thérèse de Lisieux, moi je ne veux pas être une sainte à moitié, je choisis tout. Je choisis tout. Le bien, le mal, on choisit tout. Tout ce qui est dur, on choisit. Ceux qui sont parfaitement purifiés vivent pour toujours avec le Christ. Ils sont pour toujours semblables à Dieu parce qu'ils le voient tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. Face à face. 1 Corinthiens 13, 12. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, Moïse ne pouvait pas voir Dieu face à face, sinon il en mourrait. Parce que ça provoque le ravissement, c'est trop grand. Donc le ciel, on le verra face à face. C'est grand. Cette vie parfaite avec la Trinité, et alors entre nous, ce ciel, il a commencé ici-bas, hein, par le baptême. Il y a le ciel qui est en nous. La communion nous donne de goûter à quelque chose d'éternel, mais nous n'en avons pas le goût. Nous n'en avons pas la jouissance. Pourtant, nous vivons de cela. On dit que saint Augustin, un prêtre l'a dit récemment, la définition du bonheur, qui est très mystique pour saint Augustin, c'est quelque chose qu'on a et qu'on désire encore. C'est la définition du bonheur. Et c'est tout à fait ça. Quand nous vivons notre baptême et les sacrements, nous goûtons le ciel de manière voilée, sans en jouir parfaitement, ce qui fait que nous le désirons de plus en plus pour un jour en jouir au ciel. Voyez ? Et Dieu, ici-bas, attise le désir de l'âme, ce qui fait qu'il y a des âmes qui sont de plus en plus saintes, qui, comme Thérèse d'Avila, diront « Je meurs de ne pas mourir ». Parce que ça devient ardent, le désir de Dieu. Donc vous voyez, une chose est de passer, entre guillemets, son bac spirituel, de dire « Ça y est, je suis en règle, j'arrive au ciel ». Et ça, c'est le niveau plus bas. L'autre niveau, ce que Dieu veut, ça c'est le niveau de conservation de la vie. Il faut craindre pour son salut, dans le bon sens du terme. Donc on veut sauver sa vie, mais ça ne fait pas encore des saints. Le saint, c'est plus que cela. C'est celui qui désire aimer Dieu. Et donc il va au ciel en désirant l'aimer plus. Comme dirait le curé d'Ars, je ne crains que l'enfer, parce que c'est le lieu où on n'aura pas le bonheur de vous aimer. Voilà, c'est-à-dire on rentre plus loin que simplement dans l'impeccabilité. On est dans les règles. On veut plus. Il ne suffit pas d'être en règle, mais on peut demander plus. On peut arriver au ciel en mode petit ver. Petit ver, on sera un peu rempli d'eau, on sera heureux. Mais on aurait pu ici-bas attiser le désir et avoir une grande cruche. Voilà, Dieu ne remplira pas tout le monde de même niveau d'amour. Oh, mais c'est injuste. Non, on peut désirer plus. C'est ce qu'il a dit à Catherine de Sienne. Fais-toi capacité, je me ferai torrent. Tu peux recevoir plus si tu désires plus, si tu demandes sans cesse. Voilà, une âme de désir, Dieu donnera. Une âme qui est juste le minimum, ben Dieu donnera. Elle sera heureuse, parce que quand Dieu donne, ça rend heureux. Mais on aurait pu avoir plus. Donc vous voyez, notre vie ici-bas, ce n'est pas d'être en règle simplement, c'est de nous préparer au grand bonheur. Et donc vous voyez là, une chose est d'être sauvé à la fin de sa vie, autre chose est de mériter, c'est-à-dire de participer à son salut en vue de recevoir beaucoup plus. Vous voyez. Et là du coup, il y a des gloires des saints qui seront plus ou moins grandes, on va en parler. Parce que de fait, Dieu comblera d'une manière plus ou moins grande selon de ce que nous aurons mérité par notre désir, notre vie de conversion pour recevoir cette béatitude. C'est mystérieux, mais c'est vrai. Alors, continuons avec le ciel. Au ciel, on est heureux. Il y a une communion de vie, voilà. Et ça durera toujours. Ça durera toujours. Il essuiera toute larme, nous dit l'Écriture. Ça durera toujours. C'est extraordinaire. Et oui, mais au ciel, on n'a pas de corps. Et oui, mais un jour, on va ressusciter. Au ciel, il y a Marie et Jésus qui ont un corps. Mais nous, au ciel, un jour, on aura un corps. Les saints là-haut, il leur manque quelque chose. C'est qu'ils sont que âmes. Un jour, leur corps va ressusciter. Et ça, c'est très important. Au ciel, nos corps vont ressusciter. Tous les êtres humains ressusciteront. Mais il y en a qui ressusciteront et ils iront en enfer. D'autres ressusciteront avec leur corps, mais ils iront au ciel. Vous voyez, ça, c'est important. Et donc, Jésus nous montre déjà quelque chose du corps ressuscité. Et je voudrais m'arrêter sur quelque chose, donc sur les propriétés du corps ressuscité. C'est quelque chose de très intéressant qu'on parle jamais, et ça vaut le coup de l'entendre. Donc vous voyez que le Christ, quand il est ressuscité, il a des propriétés nouvelles. On ne le reconnaît pas tout à fait, les apôtres ont fermé les portes, il apparaît en plein milieu, comment ça se fait qu'il a transversé les portes, etc. Donc au ciel, on aura à la résurrection des corps, à la fin des temps, parce que ce monde a été créé, mais ce monde a une fin. Donc, si nous mourons maintenant, ben j'espère que nous irons au ciel. Il y aura peut-être un temps purgatoire. J'espère que tout le monde, de tout notre cœur, nous choisirons le Seigneur. Nous nous préparons ici-bas. Mais on sera séparé de notre corps, a priori, si demain n'est pas le retour du Christ. Si c'est le retour du Christ, alors il y aura la résurrection des corps après. Et à ce moment-là, tous les saints, tout le monde aura son corps. Donc, ceux qui sont au ciel auront retrouvé leur corps. D'accord ? Aussi, comme les autres. Et au ciel, en fait, le corps a les mêmes propriétés que ceux du Seigneur et de la Vierge Marie. Et on peut dire les propriétés suivantes. Ça, c'est très intéressant. Impassibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Les corps ressuscités seront immortels et immunisés contre le mal. On va préciser cela. Il n'y aura en eux ni corruption, ni difformité, ni défaut quelconque. Je me souviens de l'histoire d'un jeune Africain qui souffrait de ses mains là. Limite amputé ses mains, et qui disait, oui, mais au ciel, le Seigneur m'en redonnera d'autres. Vous voyez? Donc en fait, il n'y aura plus de difformité. C'est un grand signe d'espérance pour tous nos frères et sœurs qui, dans leur corps, souffrent. Au ciel, nous serons surpris de les voir avec tel que Dieu les voulait, réellement. Il y aura véritablement des guérisons d'amour pour eux-mêmes et des guérisons relationnelles. Il y a des gens qui n'ont pas su aimer leurs frères parce que voilà, ça, ils étaient difformes. Là, on verra des choses très belles. Enfin, c'est beau de penser ça. Ils ne pourront plus souffrir. Fini les cancers. Fini tous ces problèmes. Fini les médecins. Voilà. Ils garderont cependant leur nature sensible. Et oui, le corps n'est pas une sorte de un bloc de métal qu'on pourra frapper qui ne s'abîmera pas. Il y aura une délicatesse du corps. Mais un corps qui ne sera pas déformé, qui ne souffrira plus. Et encore une fois, les élus utiliseront ce corps et leur sens pour le bien, et jamais pour le péché. Le corps ne sera plus non plus un objet de convoitise qui nous traîne au péché ou qui domine sur nous, sur notre raison et notre vie spirituelle. Tout sera à nouveau bien agencé. C'est quand même beau. Voilà. Donc tout cela, c'est l'impassibilité. Alors on passe maintenant sur le bonheur que Dieu nous donnera, la clarté. Ça va rayonner. Cette propriété consistera dans le rejaillissement sur le corps de la gloire de l'âme. Et oui, vous voyez ici-bas, la vie mystique, elle est cachée. L'union à Dieu, généralement, elle n'est pas vue. On ne voit pas qui c'est qui est uni, qui c'est qui n'est pas uni à Dieu. Seule l'âme, en état de péché, pas en état de péché, on ne voit pas. Des fois, il y a des signes qui font dire que, il y a des saints, on voit des choses. Et des fois, Dieu dévoile. Mais c'est rare. Au ciel, la gloire, ça se voit. Et l'union de charité, ça se voit plus ou moins, de manière forte. Chaque saint aura sa clarté propre, proportionnée à la gloire dont son âme sera auréolée. C'est mystérieux, mais c'est vrai. Et puis après, on aura aussi des propriétés, voilà, notre corps, qu'on a appelé agilité, subtilité, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sera pas lié à l'espace et au temps. Il y aura des propriétés, encore une fois, le monde matériel, ben, on pourra le franchir, je ne sais pas comment, mais comme le Christ, on franchira le mur. Donc on restera bien concret, mais en même temps, il y a des propriétés nouvelles. On sera plus corruptible, on ne pourra plus faire le mal avec. Et en même temps, la gloire de Dieu, ce qui nous irradie dans l'âme, s'irradiera aussi sur le corps. Donc il y aura quelque chose de nous, de transformé, de métamorphosé, quoi. Et en même temps, ça sera bien notre personnalité, ça sera nos traits. C'est mystérieux, mais c'est ça la résurrection. Et là, du coup, on n'est pas des anges, on sera véritablement tel que Dieu voulait qu'on soit. Tel que Dieu veut qu'on soit. Et en cela, le Christ est notre prototype. C'est le vrai Dieu, vrai homme. Parce que il est ressuscité, il est vraiment celui qu'on doit être, qu'on est appelé à être. Vous voyez, c'est beau, hein ? Ça, c'est très très beau. Voilà. Et puis, une fois qu'il y a eu ça, il y aura aussi le jugement dernier. Donc le Christ va revenir, et il mettra un terme à l'action du démon. Le démon a déjà perdu depuis la résurrection du Seigneur, mais il continue son influence néfaste avec tous ses collaborateurs, et parfois, hélas, on est collaborateurs des collaborateurs du démon. Si on fait le péché, si voilà, même plus, très bien. Eh bien, là, le Seigneur reviendra dans sa gloire. Il est venu une première fois humblement par les traits d'un nouveau-né dans le ventre d'une juive, la Vierge Marie. Humblement, il a été charpentier, il est mort humblement. Il reviendra de manière triomphante. Il y aura des signes. Voilà, il y aura des cataclysmes, il y aura des signes dans le ciel, il y aura des choses. Je passe tout cela, mais l'Écriture nous enseigne que ça va arriver. Et les premiers chrétiens attendaient cela. Alors, avec le temps, on attend. Mais il y a toujours des congrégations qui prient cela. Et le temps de l'avant, c'est le temps du retour du Christ. Et on a ces antiennes, « Viens Seigneur, ne tarde plus en veillant dans la nuit. » Donc le Seigneur va revenir. Est-ce qu'est-ce que nous prions à l'Eucharistie ? Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Pas le truc un peu timide, discret, hein, planqué en Palestine. La gloire, ça va se voir. Et là, du coup, le Seigneur mettra une fin à la domination des ténèbres, à la domination démoniaque. C'est fini et pour toujours. Voilà, il a déjà perdu, mais là, il n'exercera plus ce qu'il lui reste à faire. C'est fini. Et là, effectivement, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. La création sera à nouveau reprise par le Seigneur. Alors c'est mystérieux, mais ça va se faire. Alors qu'est-ce que nous dit le Seigneur, l'Église, là-dessus ? L'espérance des cieux nouveaux et de la nouvelle terre. Vous pourrez aller voir cela dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1042 et suivant. À la fin des temps, nous dit l'Église, le royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. Après le jugement universel, les justes régneront pour toujours avec le Christ. Donc vous voyez, une part, il y a le jugement personnel qui a lieu au moment de la mort de l'âme, et après il y a un jugement définitif pour tout le monde avec séparation. et aussi les puissances des ténèbres sont coupées. C'est terminé. Il y a à ce moment-là la résurrection du corps. À la fin des temps, le royaume de Dieu arrivera à sa plénitude avec le jugement universel. Les justes régneront pour toujours avec le Christ, glorifiés en corps et en âme, et l'univers lui-même sera renouvelé. Vous voyez, tous les problèmes écologiques et tout, etc., tout repris. Parce que Dieu est créateur, il peut tout faire. Cette rénovation mystérieuse qui transformera l'humanité et le monde, la Sainte Écriture l'appelle les cieux nouveaux et la terre nouvelle. 2 Pierre 3,13. Ce sera la réalisation définitive du dessein de Dieu de ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. Voilà. Donc ça, c'est prophétisé. C'est assez extraordinaire. Voyez. Et donc ça, c'est notre espérance. Donc on peut dire, ça finit comment ? Ça finit bien. La question, c'est que nous, on a un enjeu pour nous de participer à ça. Et donc, à bien finir, parce que ça va finir bien. Voilà. Alors, merci Seigneur pour ce beau projet. Donne-nous de désirer le ciel, de l'annoncer, de vivre ici-bas la communion divine, de fuir les péchés, spécialement les péchés graves, mortels, d'avertir les pécheurs, de nous convertir, de vivre avec la grâce, d'intercéder. Amen.